Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Cohésion sociale au Mali, quels sont les défis? Le Grand Dialogue de ce soir pose le débat sur cette question. Au Mali, des initiatives se tiennent à travers le pays pour la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers l'implication de toutes les couches de la société. Ces initiatives se heurtent souvent à l'insécurité, fragilisant ainsi le tissu social. Comment faire aujourd'hui pour la promotion de la cohésion sociale au Mali? Comment parvenir à instaurer la quiétude dans nos villes? Quels peuvent être les rôles des différents acteurs? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons fait appel à trois personnes. Paul Togo, membre de la société civile de Badjangara au téléphone. Fatal Moudou Traoré, membre de la CAFO de Gao et présidente des mouvements de résistance également au téléphone. Avec moi dans ce studio, Abdoul Kassim Fomba de Think Peace. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous rappelle que ce numéro du Grand Dialogue est réalisé en partenariat avec le projet Tinien Animaya. Abdoul Kassim Fomba, vous êtes, c'est vous qui êtes avec moi dans ce studio. Donc la première question sera avec vous, le temps de faire réagir nos deux co-débatteurs qui sont avec nous au téléphone, Badjangara et Gao. Quelles sont aujourd'hui les causes de l'insécurité et quel est leur impact sur la population?
Bonsoir déjà, bonsoir. Merci pour l'invitation. Les causes de l'insécurité sont, il y a énormément de facteurs qu'on peut citer. Nous, dans nos interventions, ce que nous constatons, c'est que la plupart des populations nous parlent beaucoup plus de tout ce qui concerne l'injustice, les questions liées à la gouvernance locale. Donc, ça veut dire quoi? Les prestations que l'État fait auprès de ses communautés ne sont pas faites de façon égalitaire. Donc, certains estiment être lésés vis-à-vis d'autres personnes. D'autres acteurs estiment qu'au niveau des services sociaux de base, ils n'ont pas les services qu'il faut pour pouvoir vivre de façon au moins normale ou décente. Dans d'autres cas, on nous parle aussi des amalgames qui sont faites, parce qu'il y a des communautés qui peuvent être associées à tort, qui peuvent être associés soit à des rebelles, soit à des terroristes, etc. Donc ces amalgames-là, malheureusement, amènent forcément certaines exactions qui peuvent se faire au sein de la communauté ou même avec d'autres acteurs étatiques. Donc tous ces phénomènes-là, en plus du manque d'opportunités économiques, parce que quand on parle d'insécurité, ben, malheureusement, ça veut dire que les opportunités économiques sont réduites parce que les gens n'ont plus toute cette marge de manœuvre pour pouvoir s'en sortir individuellement et de façon économique également. Donc tous ces phénomènes rajoutés et qui fusionnent ensemble sont également des facteurs. Mais il y a des facteurs qui peuvent être liés également à l'éducation. Parce que les questions de perception sont extrêmement importantes. Certaines communautés peuvent estimer que dans le cadre de leur éducation, elles souhaiteraient plutôt aller sur un axe, alors qu'il y a des cadres formels où on veut que les communautés rentrent, notamment par rapport à l'éducation formelle. Et certains estiment que, par exemple, ils préféreraient étudier avec le système religieux, par exemple.
L'enseignement coranique.
L'enseignement coranique, par exemple. Donc, lorsqu'on prend tous ces phénomènes-là, si on n'arrive pas à imbriquer tout cela et à trouver un bon consensus dans la perception de certains éléments, ça peut également amener des facteurs de non-compréhension qui peuvent nous emmener dans des problèmes, dans des situations conflictuelles. Et en plus, maintenant, de tout ce qu'il y a comme accords signés, par exemple, entre le gouvernement et les groupes armés, la difficulté dans leur mise en œuvre, des politiques qui sont adoptées au niveau national, qui se répercutent au niveau local, et le niveau local qui se plaint des décisions qui sont parachutées. Il y a énormément de choses qui concourent aujourd'hui à l'insécurité. Et là, j'en passe hein, par rapport au cas d'extrémisme violent, le nouveau phénomène qui nous touche aujourd'hui, qui utilise toutes ces défaillances-là au niveau des communautés pour se nourrir et essayer de se développer au niveau des différentes communautés. Et bien entendu, des bandits en profitent aussi. Hein, lorsqu'il y a l'insécurité, certains acteurs en profitent pour pouvoir eux-mêmes se faire un peu les poches. Et je ne parle pas aussi des trafics. Il y a énormément de choses. C'est pour vous dire que vraiment, il y a énormément de facteurs. Les trafics aujourd'hui se diversifient. Avant, on pouvait parler de trafic de drogue, de trafic d'armes. Maintenant, on nous parle de trafic d'organes, où les gens sont carrément dépecés. Comme on dépèce nos moutons et ils sont vendus, c'est-à-dire ils sont vendus.
Est-ce que ces genres de trafic se font chez nous?
Ah oui, les trafics se font ici parce que les trafics de reins, de foie, ça existe ici. Donc nous on a mené une enquête avec une organisation sur l'axe, les axes que les migrants prennent, mm-hmm. et on a compris qu'il y a certains axes de transit de certains migrants où si le migrant on estime que peut-être qu'il ne peut pas ou il pourrait peut-être pas faire tout le trajet dans certains endroits de transit qui sont peut-être pas sous contrôle de l'État forcément, ben on peut lui prendre un rein. On peut lui prendre un foie, parce que tout ça, ça coûte cher. Il y a des demandes qui sont là, et quand c'est conservé, c'est envoyé, c'est vendu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic qui se crée, et malheureusement, tout ça concourt, parce que c'est de l'argent facile pour certains, et le fait même d'être dans le circuit, c'est de l'argent, et aussi les checkpoints. Les gens se sont habitués à gérer des zones, à s'organiser. Bon, quand tu rentres dans ma zone, tu payes quelque chose. Donc tout ça, c'est de l'argent qui est facile, entre guillemets, qui se crée dans certaines zones. Et tout ça concourt à l'insécurité. Donc c'est pour cela que j'ai dit que les facteurs sont énormes. On ne peut peut-être même pas être très exhaustif. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise même pas, qui peuvent concourir également à tous ces phénomènes d'insécurité.
Et les éléments qui encourent à ce phénomène d'insécurité, vous aurez le temps d'en développer, juste le temps de faire réagir notre premier co-débatteur au téléphone. Fatal Moudou Traoré, membre de la CAFO et présidente des mouvements de résistance. Vous êtes avec nous?
Oui.
Alors, aujourd'hui, quel est l'impact de l'insécurité sur la population de Gao?
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Donc, je pense que si vous parlez d'insécurité de la population de Gao, vraiment, c'est ça notre grand facteur. Puisque aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est plus que l'insécurité. L'insécurité même, ça grandit de plus en plus et c'est là le grand problème du Nord même. Surtout à Gao, là où je vis. Et c'est le problème de Gao que je connais très bien.
Madame, vous pouvez parler un peu plus fort. On a un peu du mal à vous entendre. Vous pouvez parler un peu plus fort?
D'accord.
Ok.
J'ai dit l'insécurité à Gao, ça grandit vraiment. Puisque aujourd'hui, l'insécurité, ça grandit car on a le problème de l'or de Dahaka qui fait venir, on dirait que ça attire tout le monde vers nous.
Si je vous suis, Ntaka, c'est une zone minière dans la région de Gao.
De Gao. C'est une zone minière de Gao. Ça, c'est un problème à part.
Et en quoi cette zone minière contribue à instaurer l'insécurité dans la ville?
Car il y a toutes sortes de personnes qui viennent de tous les côtés. Le Mali est très vaste. Le Mali est très vaste et il y a des portes de rentrée partout. On ne peut même pas gérer. On ne peut pas porter une sécurité totale sur ces portes d'entrée.
Ok.
Donc, toutes sortes de personnes viennent. Et il y a le trafic d'armes, de stupéfiants, qui fait agrandir l'insécurité. Et maintenant, c'est chacun pour soi. Il y a un conflit d'intérêts. Pas un conflit d'autres choses, mais un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est ce qui provoque les braquages, les tueries, les vols en main armée. et le grand problème même, c'est que tout le monde est armé. Les armes circulent trop. C'est ce qui agrandit l'insécurité.
Merci beaucoup, Fatal Moudou. Allez-y. Terminé.
J'ai dit, tant qu'il n'y a, il n'y aura pas de DDR dont on parle chaque fois pour désarmer tous les mouvements.
Le DDR, le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion du gouvernement. OK.
Oui. On ne peut pas être en paix. Tout le monde est armé. On ne sait pas qui est qui. Il y a le chômage aussi qui développe encore l'insécurité. Quelqu'un qui chôme, qui a une arme, il fait un jour sans avoir quelque chose, deux jours. Mais la personne là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se nourrir par son arme. Il va faire des braquages, des vols, et ainsi de suite. Parce que sa force maintenant, c'est l'arme qu'il a. C'est ce qui nous fatigue beaucoup. Il y a trop de chômeurs. Le chômage, ça a grandi de jour en jour. Vraiment, c'est ce qui nous fatigue beaucoup aujourd'hui.
Alors, Fatal Moudou, gardez la ligne, le temps de faire réagir notre autre co-débatteur qui en quitte le Nord cette fois-ci pour aller au centre du pays, précisément dans la région de Badjangara, où Paul Togo de la société civile participe à cette émission. Paul Togo, vous venez d'entendre Mme Traoré dire qu'à Gao, l'insécurité a pour nom les vols, les assassinats ciblés, les braquages. Quelle est la situation donc à Badjangara?
Madame, merci beaucoup. Madame, l'autre dame,
elle se nomme Fatal Moudou, Fatal Moudou Traoré.
On l'entend pas très bien. On n'a pas beaucoup entendu, mais vous, on vous entend bien, quoi.
D'accord. J'espère que Fatal Moudou vous entend et qu'elle va mieux s'appliquer sa prochaine intervention.
Oui, sinon, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Le premier, je l'ai bien entendu. D'accord. Mais elle, c'était vraiment...
Donc je résume ce qu'elle vient de dire pour vous. Il y a le problème d'insécurité à Gao, l'insécurité a pour nous les assassinats ciblés, les braquages. Il y a également le problème de la mine de Ntaka, la mine d'or de Ntaka qui contribue également à l'insécurité. Il y a le chômage des jeunes également. Et elle parle également du processus de DDR mis en œuvre par le gouvernement et les groupes armés. Le DDR, le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Si ce n'est pas fait, l'insécurité ne pourra pas se régler. Et à Badjangara, quelle est donc la situation?
Voilà, nous ne vivons pas les mêmes faits, les mêmes circonstances, les mêmes événements. Mais c'est à part que c'est vrai que sur la LN15, entre Sévaré, Mopti, Badjangara, Bankas et Koro, c'est terrible. C'est terrible. Entre Bankas et Badjangara, vous pouvez avoir des carcasses de au moins de 20 véhicules à un pont. 20 véhicules carcasses. Donc, ils ont tout à été brûlé. Il ne reste que la ferraille. Bon, c'est la carcasse, c'est bien ça. Maintenant, dans les villes Badjangara, on sent moins l'insécurité, mais les gens ont quand même la peur au ventre parce qu'à 5 km de là, vers Doukombo, vers Kassa, à l'ouest, là, il y a des attaques sporadiques. Bon, les attaques qui se faisaient avant, quand même, ont un peu diminué. Et les cibles aujourd'hui, c'est plutôt, malheureusement, nos forces de sécurité et de défense qui sont là pour nous défendre. Alors, s'ils sont attaqués, c'est que nous sommes attaqués. Mais en fait, on ne dort jamais sur nos deux oreilles. Pas du tout à Badjangara. Chaque fois qu'il y a une attaque ou bien des gens malencontreux qui passent derrière le PC, donc ils tirent et ça met la panique dans toute la ville. Il y a même deux qui sont morts de crise cardiaque avec ces coups de feu. Donc chez nous aussi, c'est sérieux, c'est très sérieux, malgré la calmie. Et les gens ne voyagent plus, hein. Personnellement, ça fait au moins 2 ans que je n'arrive pas à Mopti, alors que j'y allais presque toutes les semaines. Je n'arrive pas à aller. Et beaucoup comme moi, beaucoup d'autres aussi, n'arrivent pas du tout à se déplacer ni vers Mopti, ni vers Koro, ni vers Bankas. Chacun a peur. Donc, nous sommes tous tirés. Alors, maintenant, pour ceux qui... Mais je ne sais pas si vous allez venir aux causes.
Je vais en venir aux causes, mais déjà, gardez la parole. Est-ce que les actions de lutte aujourd'hui de terrorisme en cours ont des répercussions sur la population civile?
Exactement. Exactement. Mais comme je vous l'ai dit, avec la montée de l'armée en puissance, ça s'est quand même amoindri. Depuis un mois, deux, quand même, sur notre territoire ici, quand même, il n'y a pas eu d'attaque qui puisse mettre en péril la vie de nos populations. C'est des attaques un peu sporadiques. Et là aussi, comme on l'avait toujours dit, c'est des bandits armés, des coupeurs de route, qui se mettent de part et d'autre du goudron. Et lorsqu'ils savent bien que vous avez quitté la banque, ils vous filment, ils vous attaquent. Ou bien lorsque vous avez été un responsable qui a beaucoup parlé d'eux, ils peuvent vous attaquer. À part ça, dans la ville même, normalement, il n'y a jamais eu de mort pour faire de terrorisme. Et il n'y en a pas encore eu. Bon, mais c'est notre psychologie qui fait qu'on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à être comme avant.
Merci beaucoup, Paul Togo. Gardez la ligne pour le cours de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que cette émission du Grand Dialogue est réalisée en partenariat avec le projet Tigné Animaya. Monsieur Fomba, vous venez d'entendre Togo tout à l'heure qui dit que les gens dorment d'un seul œil à Badjangara. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui ce manque de quiétude dans nos communautés? Certes, l'insécurité, elle, est-ce que c'est le seul facteur?
Bon, je les remercie beaucoup. Je pense que Madame Traoré et Monsieur Togo, je pense qu'ils ont bien brossé la situation locale. Est-ce qu'il n'y a que l'insécurité? Non, il n'y a pas que l'insécurité. Mais l'insécurité aussi, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'insécurité, mais qui peuvent concourir à augmenter l'insécurité sur le terrain. Je pense que j'en citais quelques-uns. Aujourd'hui, le fait déjà... qu'au niveau de Badjangara, qui est juste cette psychose, juste la psychose de dire « je ne peux pas me déplacer », c'est déjà un problème. C'est-à-dire que la personne qui avait l'habitude d'aller à son champ et qui, dans sa tête, va se dire « si je vais au champ, est-ce que je vais t'attaquer ? Je ne vais pas t'attaquer », c'est déjà un problème au niveau du mode de vie ou des conditions de vie de la localité. Mais il y a un autre point. Les actions de réponse qui sont données. Aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance et fait des belles réalisations sur le terrain. Mais il faudrait que des actions de développement puissent suivre. Lorsque les actions de développement ne suivent pas avec les actions militaires, des fois, il peut y avoir des défaillances quelque part. Donc, on peut même régler ou solutionner des problèmes liés à des bandits ou à des terroristes sur le terrain. Mais si derrière, les acteurs après... Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir revenir et de pouvoir se recréer à travers des opportunités sur place? Ça, c'est un problème. L'autre chose aussi, c'est par rapport aux structures de l'État. Il y a des endroits où, malheureusement, l'État n'est pas forcément présent. Ben, on parle d'État, on parle de la présence de l'administration. Donc, lorsque l'administration n'est pas présente et que le citoyen a besoin de documents administratifs, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'en a pas sur place. Il doit trouver le moyen de se déplacer à des kilomètres. Ça aussi, c'est un problème. Donc aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, c'est assez complexe. C'est même très complexe. C'est même pas assez, c'est très complexe. Et le fait que cette complexité nous ramène beaucoup de situations qui s'imbriquent et qui amènent ce déséquilibre au niveau des communautés, amène les membres des communautés malheureusement à avoir cette psychose de ne pas forcément pouvoir en sortir. Je pense que Mme Traoré, à un moment donné, a souligné l'aspect économique. J'avais souligné ça, mais ça, c'est un besoin qui est vraiment là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut bien parler de tout, mais après, quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on a faim, ça peut nous amener beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que lorsque la situation même sécuritaire est stabilisée et que jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des actions de développement pour dynamiser une communauté, ben on amène les membres de la communauté à chercher des alternatives pour vivre. Hein. Nous, on intervient dans des localités, on intervient même à Badjangara parce qu'on travaille beaucoup avec nos jeunes de Badjangara. Mais lorsque on intervient dans des localités où les différentes opportunités ne sont pas... Le cadre n'est pas si, ne s'y est pas pour pouvoir se développer économiquement. Ça crée vraiment des problèmes. Et là, j'avais souligné l'aspect de l'injustice aussi. Et ça aussi, c'est un problème. Aujourd'hui même, on avait une réunion ce matin. On a un de nos acteurs qu'on avait envoyé pour faire un suivi dans certaines localités, notamment vers Tombouctou, au niveau de Ber. Et il nous est revenu que certains acteurs qui sont sur place nous disent, écoutez, on veut bien que l'État revienne. Et ça, c'est une volonté qu'on constate. Hein. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Il y a des communautés qui, oui, vivent avec ces groupes, ou certains groupes, mais ces communautés ont envie que l'État revienne. Mais aujourd'hui, en termes de services, il nous remontait que ces acteurs disent, on veut que l'État vienne, mais on ne veut pas le mode de justice qui était appliqué avant, où on donnait la priorité à certains acteurs vis-à-vis d'autres acteurs. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, nous, aussi, notre État, on se réinvente. Et je suis content qu'on soit dans des situations de relecture des documents fondamentaux ou de rédaction des documents fondamentaux. Je pense que c'est une occasion de se réinventer en tenant compte de nos réalités, de nos contextes aujourd'hui. Et cela va nous permettre peut-être de pouvoir évoluer positivement et de pouvoir se sentir à l'aise dans le mode de fonctionnement et l'évolution de nos sociétés.
Fatal Mouzou Traoré, vous venez d'entendre vos deux co-débatteurs. Quelles sont aujourd'hui les conséquences de ce manque de quiétude au sein des communautés à Gao? Les conséquences de ce manque de quiétude sur les populations de Gao, le fait que l'insécurité est là, quelle est la répercussion de cette insécurité-là sur les populations?
L'insécurité, ça s'améliore, car aujourd'hui, le problème qu'on vit, on ne sait pas si le gouvernement est au courant ou pas.
Quel est ce problème-là?
Si dans notre propre pays, le Mali, qu'on a toujours crié, qu'on a toujours aimé, on n'aura pas un pays comme notre pays, le Mali. Mais aujourd'hui, on est carrément coupé du pays. On ne peut pas dépasser Rumbouli pour aller à Douanga. Rien ne rentre, rien ne sort. Nous sommes enclavés, nous sommes dans une situation très, très, très critique. Tout est cher, puisque rien ne sort, rien. Le peu qui se trouve à Gao, si ça finit, qu'est-ce qu'on voit ça?
Et au même moment à Gao, on parle également des déplacés internes. Juste après l'attaque de Tessy de la semaine dernière, on a annoncé également des déplacés.
Même aujourd'hui, il y a des déplacés qui viennent. Ça ne fait qu'empirer de problèmes. Ça ne fait qu'empirer d'insécurité. Puisque ces déplacés-là qui viennent, s'ils n'ont rien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber sur la population qu'ils ont trouvée sur place.
Et comment se fait leur prise en charge? Ces personnes-là sont prises en charge comment?
Bon, par les ONG, tu ne peux pas les suivre chaque fois. Les ONG, ils vont vers eux, peut-être un mois, deux mois, ils font le suivi après, sans aide. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que c'est pas Tessit seulement, il y a Ouattadougou. Il y a Ansongo, il y a Tessit, il y a Talatri, il y a même Meneka, hein? Il y a Djebok. Ils sont tous là, trouvant que nous-mêmes, on vit dans une situation critique. Car les gens de Gao, vraiment, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a une famine même à Gao.
Une famine, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une rupture de nourriture dans la zone?
Il y a, bon, même s'il y a de nourriture, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas vivre. Hein? Quelque chose que tu achetais à 500 francs, et aujourd'hui, tu vas le demander, on te dit 1500, trouvant que toi, dans la journée, tu ne peux avoir que 5 francs. Alors comment tu vas l'acheter?
Merci beaucoup, Fatal.
Si ton prix de condiment dans la journée fait 1000 francs et que tu vas au marché, tout ce que tu demandes, fait le groupe. c'est vraiment critique. Hein.
Si au nord du pays, on parle beaucoup plus des déplacés internes dans la zone, dans la région de Badjangara, on parle également des conflits intercommunautaires. Quelle est donc la situation actuellement pour le Togo?
Oui, justement, nous, on n'est pas pour ce format-là. Chez nous, il n'y a pas de conflit intercommunautaire, madame.
Il y a quoi aujourd'hui? Ravi de l'entendre.
Alors, tout de suite, je vais le voir en train avec le ministre et la culture. On lui a dit qu'à Badjangara, tout couleur, Peul, Dogon, Bambara, Senoufo, Sonraï, tous, nous sommes des habitants de Badjangara. Il n'y a rien entre nous. Nous vivons en symbiose, en harmonie, au respect des uns et des autres. Moi, je trouve que c'est l'extérieur qui est en train de monter tout cela, quoi.
Et quel qualificatif donner aux conflits qui se sont déroulés tout récemment dans la zone de Bankass?
Alors, pour Bankass, ça, vous le savez quand même, c'est que ce qui s'est passé, c'est que des autochtones ont dû rapporter des faits des bandits armés à l'armée. Et l'armée est partie là-bas, elle a fait son rôle, elle a fait sa tâche. Lorsque l'armée a quitté, eux-mêmes, ils ont fait des délégations, là, des délégations de terroristes qui étaient là. Ils sont venus dans les villages, ils ont dit au chef des villages, « Bon, tu nous as trahis. Tu avais promis que tu allais te taire sur tous nos mouvements, tous nos actes. Et aujourd'hui, vous êtes partis nous dénoncer à l'armée. Et voilà ce qui s'est passé. On a pris certains de nos hommes. » Donc, ils les ont mis un peu loin du village, quelques 6 kilomètres, dans un parc. Et après, ils ont donné une sentence, c'est comme ça qu'ils ont mitraillé tout ce que vous avez entendu. En brousse, hein. Donc ça, vous voyez quand même, ça c'est pas un complot.
Pour le Togo, comment vivent aujourd'hui ces communautés-là?
Que vous dites?
Comment vivent aujourd'hui ces communautés?
Mais on sera obligé de nous entendre. On sera obligé de vivre ensemble. On sera obligé d'aller à la résilience. Et la résilience, elle se fera. On ne peut pas mourir comme ça. Il faudrait que nous, quand même, avant de mourir, qu'on se débatte. C'est sûr que des solutions sont en train d'être envisagées en consultation, comme tout le monde le veut.
Pour les solutions, nous allons en parler tout à l'heure. Pour le volet solution, Monsieur Togo. Monsieur Togo, oui, pour le volet solution, nous allons en parler. Juste le temps de faire passer un micro-trottoir réalisé dans la région de Ségou par notre correspondant Mohamed Cissé, qui parle des pistes pour la promotion de la cohésion sociale. Nous l'écoutons.
Je vous attends.
Bon, moi, je pense personnellement, en première position d'abord, il faut supprimer les réseaux sociaux violents. Il y a des gens qui sont très violents sur les réseaux sociaux. Ils incitent les gens à la haine, à la xénophobie. Ça, ce n'est pas bon. Ils sont à l'intérieur du Mali comme ils sont à l'extérieur. Aux États-Unis, en France, on les voit en longueur de journée. Ils incitent les pères et mères des gens. Ça, ce n'est pas bon. La deuxième condition, il faut instaurer un dialogue entre tous les fils du pays, qu'ils soient Peul, Maraka, Bozo, Sarakole ou autres là. Il faut instaurer les dialogues. Qu'ils soient d'autres religions ou n'importe quoi, il faut instaurer le dialogue entre nous. Parce qu'on est tous fils de ces pays. Moi, je pense que c'est dans ces conditions qu'on pourra s'en sortir. Mais puis, si le dialogue-là est maintenu, à l'intérieur comme à l'extérieur, je pense qu'on pourra trouver une solution à ces problèmes-là.
Pour moi, d'abord, l'entente, la cohésion sociale. L'une des bases principales pour moi, c'est le mariage. Parce qu'il y avait des mariages intercommunautaires dans nos contrées. Tant qu'il y a mariage entre vous, en principe, vous êtes obligés de vous aimer, de vous entendre. Une fois qu'il y a l'amour, pas l'amour charnel comme les jeunes d'aujourd'hui l'entendent, non. Une fois qu'il y a l'amour du cœur même, il y a l'entente. Quand vous vous aimez, vous vous entendrez. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cet amour. La poursuite du bien matériel a détruit le moral. Une fois qu'il n'y a pas de moral, il n'y a pas d'amour. Une fois qu'il n'y a pas de moral, il n'y a pas d'entente. Tu n'as pas le temps d'éduquer chez toi. Alors, l'éducation est l'une des bases principales de l'entente, de la cohésion.
un micro-trottoir réalisé par notre correspondant à Ségou, Mohamed Cissé. Paul Togo, vous venez d'entendre ces intervenants-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour retrouver cette symbiose d'antan dont ces personnes viennent de parler tout à l'heure?
Merci, madame. C'est-à-dire que le premier intervenant, nous, on l'entend très bien, mais les deux autres, là, c'est pas très audible. Mais c'est pas grave, j'ai compris quand même l'ensemble. Madame, je pense que en tout premier lieu, il faudrait qu'on retourne à nos fondamentaux. Le village au pays d'Ogon était organisé, et toujours était organisé. Maintenant, il ne l'est moins. Dans un village, pour la sécurité du village, c'est... Il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a le chef du village. Et les jeunes sont organisés en groupe pour le pire. Quant aux vieux qui sont sous le Togona, chaque fois qu'un étranger arrive, il doit passer à côté du Togona. Et chaque vieux va se demander, mais lui, d'où vient-il? Lui, qui est-il? Et on sait toujours qui a passé la nuit avec Aljuma, ou bien avec Jacques. C'était organisé. Donc, il faudrait qu'on revienne à peu près à ça. Solidarité d'abord dans les villages. Et avant, parce que le monde a changé, c'est sûr. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas obéir comme les jeunes de 1960. Ça, c'est vrai. Mais quand même, ce qu'il faudrait, pour pallier à ça, pour une paix durable dans tous les Maliens, hein, dans toute la sous-région, madame, on a raté l'éducation. L'éducation de la famille a raté. On ne parle pas à nos enfants. On les laisse faire. Mais c'est comme ça qu'ils vont avec 100 000, 200 000, ils vont aller tuer leur propre petit frère. Ils vont aller tuer leur maman. Ils vont aller tuer leur papa. Mais où allons-nous? Parce que c'est nous qui avons raté l'entrée et la sortie aussi. Nous, les populations, les gens qui sont un peu plus âgés, plus de 40 ans, c'est nous qui avons failli. C'est pour ça qu'on a demandé aujourd'hui à ce que Youssouf Tata Cissé avait dit dans le livre « La grande geste du Mandé », qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'au Mandé, les illettrés sont nombreux, mais il n'y a pas d'homme ignorant au Mandé, car chacun des pères a enseigné à son enfant les fondements de la patrie, les valeurs de la société, le sens du travail. Nous, notre jeunesse là, était caractérisée par le travail. Et aujourd'hui, les jeunes là, ceux qui travaillent, ils sont toujours prêts à prendre le prêt à porter. J'ai entendu le premier intervenant dire que l'État doit. Il a raison. Mais non, c'est, pour moi, ce n'est pas normal. C'est à nous de nous lever d'abord pour une grande résilience dans le travail et aussi dans la cohésion sociale. L'État ne doit tout faire. Vous dites, il n'y a pas tous ces conseils-là. On travaillait quand tu es né, à partir de 15 ans, quand tu es circoncis déjà, tu sais que tu es là, tu es né pour le travail. Aujourd'hui, ils sont nés pour la sortie, pour l'exode, et pour aller, bon, je ne sais pas, faire la bombance. Non, la société a carrément raté, il faudrait qu'on redresse. Avec tout ça encore, les politiques sont venus après. Et aussi, ils ont perverti la société, perverti. On est égaux, on est libre. Qui est libre dans ce monde-là? Non. Il y a la présence des autres qui fait qu'on n'est pas libre. Donc, madame, moi, comme solution...
Merci beaucoup, monsieur Togo. Les solutions, nous allons en parler.
Mais revenons aux fondamentaux.
OK. Juste merci. Le temps de faire réagir vos co-débatteurs sur la même question. Fatal Moudou Traoré, comment faire aujourd'hui pour promouvoir le dialogue intercommunautaire dans notre pays?
Bon, le dialogue intercommunautaire dans notre pays peut se faire en faisant des forats, des rencontres communautaires pour faire des sensibilisations, sensibiliser toutes les ethnies qui se trouvent sur notre territoire. Pas dans le nord seulement, puisque le problème maintenant, ça dépasse le nord. Avant, on disait... La guerre, Dermimbe Koranfe, ou je ne sais pas comment les Bambara disent.
La guerre qui se passe au nord du pays, le conflit qui se passe au nord du pays.
Les Bambara disent Koranfe ou Koranfe.
Le Koran, c'est le nord.
Ce n'est plus au nord seulement, c'est au centre, au sud, c'est partout. Donc vraiment, on doit faire des caravanes. Et chercher à créer.
Mais est-ce que depuis le début de cette situation aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de caravanes, assez de forums organisés pour ces dialogues intercommunautaires? Est-ce que c'est la seule issue aujourd'hui? N'y a-t-il pas lieu d'explorer d'autres solutions?
La solution en est que, si on parle de caravanes par exemple, c'est pas. Il y a plusieurs ethnies dans notre région. Il y a des Peuls, il y a des Tamashek, il y a des Arabes. Il faut les faire venir ensemble. Faire les caravanes ensemble, ça peut créer une entente. Ça va donner de l'amour à chacun d'entre nous. Quand les gens vivent ensemble, mangent ensemble, marchent ensemble, s'ils arrivent à causer ensemble, ça va donner de l'amour. Donc maintenant, il y a une grande méfiance entre les gens. C'est là le grand problème. La méfiance, là, c'est la méfiance qu'il faut lutter d'abord pour qu'il y ait une paix, une cohésion sociale. Et peut-être ça peut même diminuer l'équipe.
Mais est-ce que si à Gao, par exemple, Madame Traoré, si à Gao, la société civile organisait des initiatives locales, ne peuvent pas être une solution au lieu d'attendre l'organisation avec des partenaires, des forats ou des rencontres? Ça ne peut pas être une solution. D'autres pistes à explorer, quoi. D'autres pistes à explorer au-delà de tout ça. D'accord, le temps de faire.
Ça peut être une solution.
Merci beaucoup, Fatal Moudou. Le temps de faire réagir Kassim Traoré, excusez-moi, Abdoul Kassim Fomba, qui est avec moi dans ce studio. Vous venez d'entendre tout à l'heure Monsieur Togo qui parle d'éducation, le fondement, la base, d'aller à la base pour trouver une solution. Il y a Madame Traoré qui parle d'organisation de forats, de rencontres intercommunautaires. Aujourd'hui, quels peuvent être les rôles des différents acteurs pour la promotion du dialogue intercommunautaire?
C'est une excellente question et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne vois pas les autres auditeurs, mais j'ai l'impression que peut-être il y a peut-être un décalage générationnel aussi. Et il a parfaitement raison, M. Togo, en parlant d'éducation. C'est un point qui est extrêmement important. Nous, on évalue la chose sur trois angles, qu'on appelle le PJD. Le premier angle pour nous, c'est la question de perception. Il ne faudrait pas que chacun des acteurs pense que ce que l'on pense, c'est ça qui va régler le problème. Parce que tout acteur qui est sur le terrain a une perception et une analyse de la situation. Lorsqu'on ne tient pas compte de cela, on risque de mettre et de forcer les gens à rentrer dans un système où d'autres gens ne vont pas se sentir à l'aise. Donc, cette question de perception doit être débattue. Le retour aux valeurs, ça me rappelle les discussions que j'ai avec un oncle, le petit frère à mon papa. Tous les samedis, on a des discussions très, très intéressantes. Et ça me rappelle ce que M. Togo dit. Et il insiste beaucoup sur l'éducation, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je me dis qu'aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui, ce n'est pas le jeune des années 60, ce n'est pas le jeune de l'indépendance. Et je le taquine souvent à mon oncle, je lui dis, nous sommes des Maliens, vous êtes des Soudanais. Et la différence c'est quoi? C'est que vous avez vécu la colonisation, donc au niveau peut-être vous de votre perception, vous avez peut-être un complexe devant certaines personnes. Nous, on n'a plus ce complexe-là parce qu'on les a côtoyés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un mix. Il faut trouver le moyen de pouvoir ressortir les perceptions que nous avons de la situation aujourd'hui, notre analyse de la situation, et essayer de trouver un juste milieu pour le mixer avec ce que M. Togo appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, il faut y travailler parce que l'éducation est la base, oui. Ça, c'est une réalité. Mais quel type d'éducation aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous informer partout. Il y a les réseaux sociaux. On ne peut pas faire fi de cela. Que l'on fasse tout ce que l'on veut, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Il n'y aura aucune loi qui va les empêcher aujourd'hui de pouvoir leur dire « arrêtez de regarder les réseaux sociaux ». Et malheureusement, les réseaux sociaux, il y a du tout. Il y a un de vos intervenants du micro-tutoir qui en a parlé. Il y a des gens qui, eux, s'amusent à pousser à la haine. Ils aiment ça. Ça les enchante. Peut-être qu'ils ont d'autres types d'intérêts derrière, mais c'est quelque chose qui est là. L'autre chose, pour moi, le débat intercommunautaire, c'est très intéressant parce que je me pose toujours la question, ce débat-là, c'est entre qui ? Intercommunautaire, généralement, dans la plupart des cas qu'on a mené ces initiatives, on a fait venir des acteurs. On n'a pas fait venir tous les acteurs. Donc, qu'est-ce qui arrive ? C'est que certains qui viennent parler au nom de leur communauté, ben, lorsqu'ils retournent, on leur dit « mais vous avez parlé à votre nom, vous n'avez pas forcément parlé au nom de toute la communauté ». Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « on ne se reconnaît pas ».
Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir tous ces acteurs-là autour de la table ?
Il faut trouver le moyen d'avoir la perception de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur des rencontres au niveau, par exemple, communal. Pour nous, aujourd'hui, le débat doit se situer à un niveau micro. Parce que la perception à un niveau micro est différente de la perception. C'est comme la perception au niveau village est différente de la perception au niveau commune, qui est différente de la perception au niveau cercle, qui est différente de la perception au niveau région et au niveau national. Si l'on doit écouter tout le monde, il faut se donner le temps réellement d'écouter tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire nos débats et qu'on va aller prendre juste certains acteurs, on va les écouter, ils vont dire « je viens parler au nom de ma communauté », mais après ils retournent, ils ne parlent pas au nom de sa communauté parce que certains de sa communauté ne sont pas d'accord avec lui. Ils n'analysent pas le fait de comme lui, il pense. Mais pour moi…
– Alors, Monsieur Fomba, il ne reste plus que deux petites minutes, le temps de donner la parole aux deux co-débatteurs. Madame Traoré, nous sommes au terme de cette émission en 30 secondes. Que faut-il aujourd'hui pour ramener cette cohésion sociale ? Des pistes de solutions ?
Des pistes de solutions ?
Oui.
Pour amener la paix et la cohésion sociale, il nous faut avoir d'abord la sécurité. Parce que même pour atteindre l'ordre profond, ce n'est pas facile. Souvent, on doit se rendre sur les zones dans lesquelles se trouvent les autres acteurs. Mais c'est pas facile. Qu'il soit à 5 ou 10 kilomètres, c'est fini pour toi. Qui est en nécessité.
Merci beaucoup, Madame Traoré. Paul Togo, selon vous, quelles peuvent être aujourd'hui les pistes à explorer pour ramener cette cohésion sociale au sein de nos communautés?
Merci, Madame. Je vais être très pratique. Nous avons fait une réunion de Guinée-Dogon, une réunion de Taptal-Poulago. Il y aura la synthèse. À l'issue de la synthèse, on va aller voir tous nos déplacés vers Mopti, Ségou, ailleurs, on leur dira « revenez, c'est chez vous, le Mali est à nous tous, voilà notre décision ». Nous, on va se déplacer jusqu'à eux, c'est ça notre solution.
Le dernier mot pour toi, M. Fomba, aujourd'hui, en 20 secondes, que faut-il faire aujourd'hui pour cette cohésion sociale ?
Éducation, justice, développement local.
Et sur ces mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue de ce soir, ils étaient avec nous, Paul Togo, membre de la société civile de Badjangara, Fatal Mouzou Traoré, membre de la CAFO de Gao et président des mouvements de résistance. Au studio, Abdul Kassim Fomba de Think Peace. Je suis Mariam Maïga. À la régie son et vidéo, il y avait Salim Diouara et Nhoum Djiré. Merci de votre constante fidélité et à la prochaine. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Gmoun.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba.